est largement sous-valorisé. On peut considérer que la décote aujourd'hui de valorisation par rapport aux moyennes historiques des multiples de cette classe d'actifs-là, on est à peu près à 25%. C'est pas déraisonnable d'avoir une vingtaine de pourcents sur une classe d'actifs comme des small caps dans l'intérieur d'un PEA. Sur le papier, se mettre à acheter tous les trimestres des ETF pour les garder sur les 20 prochaines années, je pense que c'est une très bonne idée. La vérité, c'est qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Il s'avère que les ETF font souvent mieux dans les marchés très haussiers et que généralement, ils sont toujours largement battus dans les marchés baissiers. Pour une raison très simple, c'est que la gestion active, elle a souvent des liquidités déjà dans les portefeuilles, entre 5 et 10% pour faire face à des souscriptions achats. Donc dans un marché très haussier, ben ça vous coûte en termes de performance. Vous avez cet impact des frais, tout aussi significatif. Mais après, dans les marchés baissiers, souvent vous avez un peu plus d'agilité et donc des fonds qui font beaucoup mieux.
Bienvenue dans un nouveau Finary Talk. Aujourd'hui, on va parler actions et on va parler plus particulièrement small cap. Et pour ça, j'ai invité un expert qui est sur les marchés depuis près de 30 ans, c'est François Chollet.
Bonjour Mounir, merci de m'accueillir et de rappeler, 30 ans c'est un peu long effectivement, on a vécu quelques éléments depuis ces trois décennies sur les marchés.
Et justement, tu m'as dit, tu as commencé en 1995 et ta première année, il y a eu un crack obligataire.
Et un crack immobilier. Donc
et un crack immobilier.
On revit un peu effectivement 30 ans plus tard un cycle économique que j'ai connu. Qui avait conduit les indices à une forte correction, je pense en 96, notamment l'indice français. Et c'était une remontée de taux assez inédite pour moi qui démarrait à ce moment-là. On voyait des fonds obligataires qui avaient pris des performances négatives très importantes et un marché de l'immobilier qui était totalement figé. Après une vague d'euphorie dans les années 90, on avait une vague de forte baisse des marchés immobiliers. Ça ressemble un peu, effectivement, par certains aspects, à ce qu'on a connu en 2022 et ce qu'on est en train de commencer à connaître en 2023, notamment sur l'immobilier et les foncières.
Et justement, est-ce que tu peux tracer un parallèle ? Qu'est-ce que t'as ? C'était quoi les enseignements de l'époque ? Qu'est-ce qu'on peut appliquer aujourd'hui ? S'il y en a.
Alors, c'était une époque, on ne sortait pas d'une période d'argent gratuit de plus de 10 ans. Donc, on
les taux étaient à combien à l'époque avant, tu penses?
On était passé de 6 à 8 sur le 10 ans. Donc
c'était, 6%.
Mais c'était un contexte qui déjà avait traumatisé les placements obligataires. Imaginez ce qu'on est en train de vivre avec des hausses de taux qui sont parties de 0 pour arriver à 3% sur le 10 ans européen. C'est un changement de paradigme qui n'a aucune commune mesure et qui a eu un impact sur les portefeuilles obligataires qui n'a pas de commune mesure. Mais ce qui est intéressant, c'est que certaines choses qu'on avait connues sur très longues périodes, la baisse tendancielle des taux d'intérêt sur des très longues périodes, plusieurs dizaines d'années, quand ça se retourne, eh bien, il n'y a plus personne qui a été formé à ces phases de marché-là. L'immobilier, les gens qui ont moins de 50 ans ne connaissent pas des phases de correction significative de l'immobilier, notamment dans les grandes villes ou les métropoles comme Paris, tout simplement parce qu'on a eu des marchés qui se sont calmés, assagis, des petits replis comme en 2008-2009, mais qui n'étaient pas de nature à incarner un retournement de marché. Là, ce qu'on vit me paraît un peu plus significatif.
Donc tu penses qu'il y aura un retournement de marché sur des villes comme Paris ?
Alors, le retournement, il est déjà effectif. Ce à quoi on assiste, c'est surtout la difficulté sur une classe d'actifs qui concerne l'actif immobilier de revaloriser avec des taux d'intérêt plus élevés les rendements locatifs. Quand vous êtes porteur obligataire ou porteur d'un immobilier, c'est un peu la même chose. Vous êtes venu chercher un rendement. Vous êtes venu chercher un dividende ou un loyer ou un intérêt. Et ça, lorsque vous avez le baromètre des taux qui remontent, eh bien, pourquoi j'irais aujourd'hui investir dans de l'immobilier parisien alors que je pense qu'il est déjà bien valorisé sur des loyers qui vont me ramener du 2-3% de rémunération, alors que je peux prêter à une entreprise qui a une bien meilleure signature à 5 ans, à 4,5, ou une entreprise qui a une signature un peu dégradée, mais pas forcément plus risquée que mon achat immobilier, avec des taux à 7. Je ne vais pas aller faire de l'immobilier, je vais donc arbitrer ou demander à ce que mon immobilier me ramène autant. Et c'est ce qui a été le fil conducteur, ce qu'on appelle le taux de capitalisation, de la baisse de toutes les foncières cotées, ce à quoi on a incité depuis maintenant à peu près 15 mois, avec un repli de plus de 50% de cette catégorie d'actifs sur les marchés. C'est tout simplement parce que vous avez des foncières qui versaient des dividendes, qui avaient un niveau d'endettement et des niveaux de loyer qui ont été complètement battus en brèche par la remontée des taux. Et aujourd'hui, comme vous avez le même rendement sans prendre de risque, eh bien, on ne va pas prendre de risque, on ne va pas les acheter et on va demander à ces actifs-là d'être décotés pour venir compenser l'écart de rémunération. C'est exactement ce qui se passe quand vous avez une obligation en cours de vie. Si les taux remontent, vous demandez à ce que votre obligation vous ramène autant que les autres signatures. Et le seul moyen de faire ça, vu que c'est contractuel, c'est d'avoir un marché secondaire, une obligation qui a perdu de la valeur. C'est ce à quoi on assiste sur l'immobilier.
Et justement, toi, tu regardes les actifs ou les classes d'actifs de façon très haut niveau, parce qu'aujourd'hui, tu fais plutôt de l'allocation d'actifs. Chez Montségur, tu peux peut-être nous en dire quelques mots.
Montségur, oui, on est, donc on est une société de gestion. Donc, notre métier, c'est d'avoir des mandats de gestion pour des clients privés ou entreprises.
Ça va être quoi, à peu près, les niveaux de patrimoine des clients privés?
Alors, aujourd'hui, on adresse à peu près 1 milliard d'encours. Et on s'adresse, en fait, à pas mal de typologies de clients. Simplement, ils n'ont pas tous les mêmes services. Donc, si je parle de notre cœur de métier, c'est à peu près 500 clients. Donc, c'est des clients qui correspondent à de la gestion privée. On est entre 500 000 et 2, 3, 5 millions de patrimoine financier. Il s'avère qu'on a quelques gros clients, plusieurs dizaines de millions d'euros. Mais globalement, le cœur de la clientèle en France, c'est l'équivalent de 9 millions d'euros, 1,5 million. C'est là où se situe la plupart des mandats. Ça, c'est le cœur de métier. Pour ces clients-là, on fait des mandats. Ces mandats, ils sont investis sur les marchés financiers, en actions, en obligations, en France, en Europe, à l'international, sur les marchés émergents. Et on travaille ces allocations d'actifs. Et notre métier, c'est vraiment d'aller accompagner ces clients, de leur donner la transparence à la fois sur le risque, parce que c'est souvent quelque chose qui a du mal à être apprécié par les clients privés, à la fois sur les frais, sur la façon dont on va gérer cette épargne dans le temps. Peut-être éviter parfois des effets d'emballement qu'on peut avoir sur certaines phases de marché, et peut-être éviter parfois d'avoir des clients qui paniquent avec les marchés et qui souhaiteraient sortir dans des moments qui ne seraient pas opportuns. Et donc, si on doit dire quel est le service finalement qu'on apporte sur longue période à nos clients, on peut dire déjà qu'on leur a évité pas mal de bêtises. On a essayé de les accompagner sur un chemin qu'on avait tracé de confiance, donc on leur a donné de la sérénité et on a valorisé leur épargne d'une manière assez prévisible, en tout cas, par rapport à ce qu'ils souhaitaient. Et ça, c'est quelque chose dont on est assez fier chez Montségur Finance. Donc ça, c'est le cœur de métier. Pour construire ces allocations, parfois, on fabrique des fonds. Parfois, on va les acheter. Ça dépend. Ça représente à peu près 300 millions chez nous de fonds de gestion collective. Alors, des fonds actions, Europe essentiellement. On a deux fonds de grosses valeurs européennes, une sur thématique croissance, thématique dividende. On a des fonds patrimoniaux, notamment un dont je m'occupe, qui s'appelle Montségur Patrimoine, qui est un fonds prudent. Donc, c'est des fonds qui ont vocation à être, on va dire, pour des clientèles qui ne veulent pas trop de volatilité sur leur patrimoine.
Tu vas mettre quoi dedans, dans ces fonds?
Aujourd'hui, il y a une exposition action qui oscille entre 20 et 35%, on va dire. Voilà, ça permet de faire une année 2022 à moins 4,5%, ce qui est plutôt propre. Et on les a quasiment rattrapés depuis le début de l'année, donc ça se passe pas trop mal pour ces portefeuilles prudents. C'est des fonds qui avaient perdu beaucoup d'intérêt, hein, puisque vous aviez une poche obligataire qui rapportait zéro, voire moins. Donc c'était assez compliqué. Il n'empêche que ça redevient des fonds intéressants pour placer son épargne à un terme et avec une volatilité pas trop importante. Et puis, on est en train d'essayer de construire des fonds de thématiques ou de niches. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est les small caps. C'était une catégorie d'actifs qu'on a souvent traité. Dans ma vie passée, j'ai été dans une société de gestion qui avait ça comme spécialité. Et j'en ai découvert les travers, les effets aussi très significatifs et positifs, parce que c'est une classe d'actifs passionnante. C'est souvent des entreprises qu'on a du mal à appréhender directement, parce qu'il y en a beaucoup, notamment si on s'adresse à un marché européen. Et en revanche, ce qui est intéressant, c'est que c'est une taille d'entreprise qui est appréhendable pour un analyste facilement, c'est-à-dire qu'on arrive assez facilement à comprendre le métier, à comprendre où est-ce qu'il gagne de l'argent, et à voir les métriques qui feront les clés de succès de ces valeurs-là. Et donc, c'est toujours été une matière, en tout cas, passionnante pour des gens qui sont investisseurs ou entrepreneurs, parce que je suis un peu les deux, finalement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est attractif. On avait un peu délaissé cette classe d'actifs. depuis maintenant un an et demi, et plutôt à raison.
Parce que ça a sous-performé par rapport au...
Très très, simple, très, très largement, plus que ça même, c'est même un bain de sang, les small caps européennes. Mais c'est la même chose aux États-Unis, on a eu les mêmes effets un peu dans toutes les zones des pays développés. Simplement, les capitaux sont partis de cette classe d'actifs, ils ne sont pas vraiment revenus, donc il y a une désaffection totale, alors que, notamment sur le private equity, on n'a pas eu du tout ces effets-là. C'est en train d'arriver, mais on ne l'a pas eu sur les deux années dernières. C'est une classe d'actifs un peu difficile à travailler pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un vivier de très nombreuses entreprises, très mal suivi. On a très peu de bureaux de recherche en fait, qui se penchent sur ces entreprises-là. La taille de capitalisation n'est pas assez importante. Et donc souvent, le peu de recherche qu'on a, c'est de la recherche sponsorisée, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui elles-mêmes paient des analystes pour écrire et documenter la vie de l'entreprise.
Donc ça, qui biaise le...
ça biaise largement effectivement la relation que l'on peut établir avec la recherche qu'on reçoit sur ces dossiers-là.
Petite pause pour vous parler de Finari, la plateforme que j'ai développée. Finari, c'est quoi ? C'est le meilleur moyen de centraliser son patrimoine pour tout avoir au même endroit. Donc exit l'Excel, maintenant vous pouvez connecter plus de 20 000 banques, des plateformes d'investissement, ajouter votre immobilier, vos emprunts, vos cryptos. Vous avez tout au même endroit, vous avez votre calcul de performance qui est automatisé et en plus, vous avez des insights qui vous permettent de débusquer les frais cachés, de voir votre exposition géographique, de suivre vos dividendes et plein d'autres choses. Du coup, à l'occasion de ce talk, je vous propose un code promo pour bénéficier de Finari Plus qui est notre offre premium. Il faut savoir que Finari, notre business model, il est hyper simple. Pas de pub, pas de vente de données, un abonnement Finari Plus. Donc, je vous offre 20% avec le code FinariTalk21. À très vite. Et justement, je pense que peut-être que c'est important de préciser, le small cap, c'est quoi en fait ? Comment tu définis une entreprise small cap ? D'ailleurs, on dit small cap, mais on pourrait dire petite capitalisation, c'est un anglicisme, mais c'est quoi du small cap ?
Alors, il s'agit de regarder des entreprises qui, à la différence des grandes entreprises sur les marchés, notamment des grands indices, se situent sur des valeurs de capitalisation, c'est-à-dire la valeur boursière des titres cotés. On va dire, ça démarre entre 100 et 150 millions d'euros, et puis la mid-cap démarre à 3-4 milliards. Voilà.
En Europe ?
En Europe. Donc c'est un univers de PME finalement. Et donc c'est un univers qui est très large et qui n'a pas forcément, à la différence des grandes entreprises, tous les outils de communication à disposition de la communauté financière. Ils n'ont pas forcément un investor relation pour s'adresser aux analystes, ils n'ont pas un suivi. Parce que les brokers sont devenus globaux, c'est un métier qui s'est concentré, ben, ils sont concentrés sur les grosses entreprises sur lesquelles ils font du business et pas sur les toutes petites qui n'aident pas à grand-chose. Et puis c'est une classe d'actifs où il y a finalement de sacrées pépites parce que l'internationalisation, la digitalisation, ça fait qu'une PME européenne est parfois une PME de taille mondiale sur son marché, sur des niches, sur des choses assez passionnantes souvent. Et donc on a la chance en Europe d'avoir un vivier de PME absolument incroyable, qu'il s'agisse de l'Europe du Sud, de l'Europe du Nord, du Mittelstand allemand, on a plein de matières. C'est très difficile à adresser aussi parce que souvent, les fonds que j'ai pu acheter dans ma vie d'investisseur et d'allocataire étaient des fonds qui... étaient des fonds de conviction. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous aviez une équipe de gestion qui concentrait son investissement généralement sur des choses qui lui étaient les plus familières. Donc ça conduit à des portefeuilles plutôt français, à des portefeuilles plutôt de proximité. Donc le top 10 des fonds était souvent très concentré sur des valeurs assez consanguines entre tous les fonds de small cap. Et donc quand vous avez des phases de marché difficiles, comme on a pu connaître l'année dernière, qu'on a connu en 2008 par exemple aussi sur les small caps, ça avait été extrêmement difficile. En fait, même si vous n'êtes pas... Si vous subissez pas les rachats, bah vos petits copains qui ont des fonds de small cap les subissent et donc vous baissez avec ces classes d'actifs-là.
Et quand tu parles des rachats, c'est les clients qui veulent sortir du fonds.
Des fonds.
Du coup, le gérant est obligé.
Le gérant qui est obligé de vendre et vous avez parfois des carnets d'ordre qui sont vides parce que tout simplement, il n'y a pas
personne
la profondeur de la liquidité du marché pour se mettre en face.
Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, en 2008-2009.
On a vécu des choses
absolument incroyables. T'as vu des carnets d'ordre
vides. On n'aurait pas pu sortir les lignes tout simplement parce qu'à la demande, dans le carnet d'ordre, il n'y avait rien. Et donc, sur 10 titres, je suspendais pendant une demi-journée la valeur parce que on ne pouvait pas coter, tout simplement.
Tu ne pouvais rien faire.
On ne pouvait rien faire. Et donc ça, c'est extrêmement frustrant quand vous êtes investisseur, parce qu'il faut savoir que sur ces small caps, il peut y avoir des problèmes de liquidité.
Ouais.
Et donc souvent, ce sont des fonds qui, à une certaine taille, d'ailleurs, se ferment. On dit, ben, je suis capable sur cette catégorie-là de gérer jusqu'à 100, 200, 300 millions d'euros, mais après, je n'ai plus la profondeur et la liquidité pour diversifier correctement. Donc c'était plein d'écueils. Et il s'avère que sur les dernières années, j'ai vu émerger quelques startups de gestion, et notamment une qui m'a intéressé, notamment parce qu'un des cofondateurs, ben, je l'avais embauché quand il était jeune analyste dans une maison qui s'appelait Richelieu Finance. Et il s'appelle Johan Quedricaillou. Il avait monté une boîte de gestion. Il était venu me vendre son fonds de small cap à plusieurs reprises, et je l'avais encouragé. Et ils sont venus avec un process qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, ben tiens, il y aura un moment où ce sera peut-être intéressant d'aller sur cette classe d'actifs à nouveau. Et je ne veux pas y revenir d'une manière totalement traditionnelle. Je n'ai pas envie d'aller voir un gérant traditionnel pour faire ça. Je veux vraiment adresser ça presque à la frontière d'un ETF. On pourra détailler un peu pourquoi je dis ça, mais l'idée de dire, c'est de pouvoir adresser cette classe d'actifs sans tomber en amour avec les sociétés, sans avoir de concentration de risque et en essayant d'avoir un maximum de liquidité.
Donc c'est une approche très rationnelle en fait, très quantitative.
C'est une approche qui est assez quantitative et surtout très rationnelle du point de vue de l'investisseur,
ouais.
Qui consiste à dire, je ne cherche pas à faire un coup sur une, trois, cinq, dix small caps dans les portefeuilles de mes clients. D'ailleurs, j'ai toujours la possibilité de le faire en direct, puisqu'on gère aussi des portefeuilles en titres vifs. Hein. Mais je veux adresser une catégorie d'actions sur le marché dans mon allocation, que ce soit pour des PEA, que ce soit pour des contrats d'assurance vie, que ce soit pour des comptes titres. Et là, je veux avoir quelque chose de très large, très diversifié, avec peu de risques spécifiques. Et ça, ce n'est pas facile à trouver sur le marché des small caps.
Le risque spécifique, tu le définis comment ? C'est le risque d'une société, d'une industrie, d'un
Exactement.
Secteur ?
Exactement. C'est le risque qui consiste à concentrer les portefeuilles de small caps, généralement sur 5 ou 6 lignes, qui vont faire la perf ou la sous-performance du fonds pendant un an ou deux. Et donc, vous avez souvent, dans les fonds de small caps, des fonds qui font des coups d'éclat, et donc on va les remarquer, mais qui sont capables aussi d'avoir des années difficiles, tout simplement parce que c'est à peu près les mêmes valeurs qui tournent à l'intérieur et qu'elles subissent des phases de correction comme toutes les autres valeurs. Et donc, mon souhait, c'est de ne pas avoir ce risque spécifique sur les small caps quand j'adresse ce genre d'actifs pour mes clients.
Ouais. Et tu disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, on est dans une phase... Enfin, c'était très difficile pour les small caps l'année dernière. Là, aujourd'hui, les marchés ont quand même remonté, les small caps sont un peu mieux. Est-ce que c'est un moment intéressant pour rentrer dedans? Est-ce que toi, t'es en train de reprendre des positions dessus?
Alors la réponse, elle est oui. D'abord, la première position qu'on a faite, c'est qu'on a racheté cette société.
Évidemment.
Donc, c'était pour récupérer ce fonds-là et internaliser le savoir-faire chez Montségur Finance. Le savoir-faire, il a été développé par deux personnes sur ce fonds-là. Et parmi ces personnes-là, c'était des gens qui avaient déjà eu cette première expérience d'analyste, puis de gérant traditionnel de small cap, et puis ensuite qui ont décliné ça dans un process un peu plus quantitatif pour créer ce fonds-là. On avait un track record qui était plutôt intéressant sur ce fonds, avec un passé qui était plutôt glorieux en termes de performance. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est la visibilité. C'est surtout ça, c'est-à-dire la prévisibilité de la performance par rapport à la classe d'actifs. Et donc, on s'est dit, ben oui, on va vouloir se réintéresser à ça. J'ai trouvé une façon qui me paraît intéressante d'adresser cette classe d'actifs. Pourquoi pas racheter la société, récupérer ses intrapreneurs chez nous et puis essayer de développer le portefeuille. On a récupéré ça en fin d'année dernière. On a intégré la société au 1er janvier 2023, donc c'est très récent. Et on a commencé à rentrer sur le fonds une partie de nos clients. Et donc le fonds, on a triplé, je crois, le montant des encours cette année. Mais ce n'est pas encore la taille à terme qu'on souhaite mettre sur cette classe d'actifs. Je crois qu'on n'est pas loin pour nous, en tout cas, du go pour mettre vraiment les bouchées doubles sur cette catégorie d'actifs-là. Simplement, dans les phases de marché qu'on est en train de connaître, pour l'instant, force est de constater que la performance des indices, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, elle est hyper concentrée. Et cette concentration, elle est faite, je pense, beaucoup de gestion passive,
ouais.
Beaucoup aussi de la concentration des profits et de la croissance sur des acteurs majeurs. Et donc, on a le biais en Europe des acteurs du luxe, notamment sur le CAC 40.
L'école.
Pas que. on a le biais sur le S&P 500 américain des 6 ou 7 qui font la performance quasiment de l'indice. et vous avez déjà des valeurs moyennes derrière qui sont très en retard, et les small caps qui sont restés collés en bas du panier, puisque si je regarde les indices européens, je crois qu'on est autour de 3% depuis le début de l'année sur les indices de small caps, donc ça n'a pas encore réagi par rapport à une baisse l'année dernière qui était de peu près un tiers de la valeur des portefeuilles de small caps, donc c'est pas encore revenu, les flux d'investissement ne sont pas revenus sur ces classes d'actifs-là. Il ne faut pas non plus aller trop vite. Je pense qu'on peut mettre un doigt et puis on accompagnera à la hausse. Parce que quand ça va démarrer, effectivement, ça peut aller très vite. Parce que c'est simplement le rééquilibrage de l'offre et la demande sur ces titres-là qui fait la performance. Que sur le fondamental, il n'y a pas eu de déception majeure sur ces titres.
Et sur le long terme, le small cap par rapport au large cap, c'est donc plus de risques, tu l'as dit.
Oui.
Ça surperforme quand même.
Oui, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on part de taille de société plus petite, souvent plus agile, plus dynamique et souvent avec plus de croissance. Donc on a cet aspect de surperformance régulière sur longue période. En tout cas, les small caps font mieux que les larges caps, tout simplement parce qu'elles embarquent une plus grande croissance et donc elles apportent en valorisation aux actionnaires plus. Ensuite, vous avez un aspect aussi spéculatif. C'est-à-dire que pour une grande entreprise, parfois, on gagne du temps à aller acheter un fournisseur, un client ou faire de l'intégration plutôt que d'investir pour la fabriquer à nouveau. Et donc, naturellement, c'est une catégorie qui, lorsqu'elle est fragilisée, lorsqu'elle est ou bien lorsqu'elle va très bien, suscite beaucoup de convoitises. Donc, on a beaucoup d'OPA qui sont sur les small caps et qui, généralement, amènent des primes de valorisation qui sont parfois très surprenantes. C'est pas... exceptionnel d'avoir des primes entre 30 et 50% sur les moyennes de cours des derniers mois sur des small caps, tout simplement parce que la valeur de cette entreprise-là va être démultipliée dès lors qu'elle est récupérée par un grand groupe qui va l'utiliser à plein pour son propre intérêt et son propre usage.
Ouais. Et ça, justement, tu disais, je t'ai demandé plusieurs fois, c'est quoi tes valeurs préférées ? Et donc, on a un peu parlé du process de Sepia, mais on peut peut-être revenir dessus. Il est beaucoup plus rationnel, en fait, et justement, il essaye d'éviter d'avoir des concentrations sur des lignes spécifiques, mais plutôt d'adresser des secteurs.
Exactement. On n'a pas d'amour pour aucun titre en portefeuille, donc c'est un portefeuille qui est très large, déjà.
Combien de positions ?
À peu près 120. Okay. Donc, c'est 120 valeurs. Je crois que la plus grosse pose fait 1,2%, donc c'est vraiment pas de poids spécifique sur les valeurs. Beaucoup de rotation, donc c'est un portefeuille qui tourne beaucoup. 250% de taux de rotation sur le portefeuille, c'est beaucoup.
Pourquoi ?
Parce que il y a une partie momentum intéressante et donc le portefeuille il est remis en question régulièrement dans le process. Donc il n'y a pas d'attachement au dossier. Donc il y a vraiment donc c'est l'anti fonds de conviction. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que on part d'un univers de à peu près 2000 valeurs. Pour arriver à ces 120, et que ce sont des filtres assez quantitatifs. Alors, ils ont appelé ça la gestion comptamentale, mais j'aime pas trop ça. L'idée, c'est qu'on a beaucoup de filtres, tout simplement parce qu'on a modélisé ce qui marchait pour sélectionner des small caps. Voilà. Et donc, ce qui marche, c'est les entreprises qui ont de la croissance, ont des bilans qui leur permettent d'assumer la croissance, sont sur des bons momentum sur leur marché. Enfin, il y a plein de critères qui fonctionnent. Pas forcément des critères de valorisation, d'ailleurs, c'est pas toujours intuitif pour moi, parce que j'étais plutôt un gérant rationnel sur les multiples. Mais là, vraiment, ça marche pas. Les backtests qu'on fait sont vraiment pas flagrants. Et donc, tous ces critères-là conduisent à réduire l'univers de manière assez considérable. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que derrière, c'est la vision macro de gérants qui, derrière, vont aller choisir à l'intérieur de ces filtres-là ce qui est considéré comme les pépites qu'on veut avoir en portefeuille et qu'on va accompagner dans la durée ou pas en fonction de ce qu'elles vont délivrer. Et donc c'est assez intéressant parce que moi j'ai été dirigeant d'une société de gestion dans le passé où on avait des fonds qui étaient en permanence l'objet d'OPA sur des valeurs, etc. On passait notre vie à les justifier, les raisons pour lesquelles on avait acheté ces entreprises-là. Est-ce qu'on avait eu des contacts privilégiés ? Est-ce qu'on avait eu... voilà, donc on avait les enquêtes en permanence pour savoir si on avait travaillé normalement ou si vraiment on avait été initié dans le cadre de ces dossiers. Là, on n'a pas ce sujet. On n'a aucun contact avec l'entreprise. C'est des visions sectorielles, c'est des visions macro qui conduisent les poids. Et ensuite, c'est décliné sur les secteurs d'une manière extrêmement diversifiée de façon à assurer, en tout cas, aux porteurs de ce fonds-là, qu'il n'y a pas de risque spécifique, qu'il n'y a pas de connaissances intimes particulières sur les dossiers. Et ça, je dors tranquille avec ça. Et pour l'instant, je suis à peu près certain, vu que c'est tout à fait justifiable du début à la fin, qu'il n'y aura pas d'enquête. Voilà. Donc, on a coupé ce lien d'affect, ce lien de connaissance intime des entreprises. On est dans quelque chose qui est processé. Et c'est vrai que le process ne va pas... C'est pas une gestion automatique, donc c'est vraiment un tri sélectif. Et derrière, l'intervention des gérants pour aller par secteur, choisir en fonction d'une vision globale quels sont les secteurs à privilégier, quels sont les poids à attribuer sur chacune de ces lignes-là.
Et tu disais tout à l'heure, ça s'apparente à un ETF. Ce serait quoi les différences ?
Pas mal d'aspects, oui. Alors, quand l'ETF était quelque chose qui nous a intéressé sur les small caps, parce que c'était une façon facile de rentrer, c'est très diversifié aussi. Et puis après, quand j'ai commencé à regarder comment c'était construit, quels étaient les coûts, quel était l'intérêt ou pas, finalement, j'ai pas trouvé ça très, très, très intéressant. Un ETF small cap aujourd'hui, ça coûte à peu près 0,4 ou 0,5 de frais de gestion. Donc, c'est pas zéro, c'est pas les 5 points de base ou 10 points de base d'un ETF de large cap. La concentration, elle est très bonne, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 150-200 valeurs, donc on est dans le même ordre d'idées. Mais par contre, vous avez des coûts à l'achat, des coûts à la vente, vous avez des fourchettes de cotation. Donc rentrée-sortie d'un ETF, finalement, c'est pas neutre. Et donc, dans le cadre de notre gestion privée, par exemple, j'ai trouvé que c'était pas idiot d'avoir un fonds qui soit pas trop chargé. Ce fonds-là, il est chargé sur la part normale à 1%, donc c'est acceptable, entre guillemets, dans la période actuelle. Il y a zéro frais lié aux commissions de mouvement ou quoi que ce soit. Et donc, c'est une façon aussi d'aller sur cette classe d'actifs-là avec un peu plus d'intelligence que l'ETF. Et puis, une transparence qu'on n'a pas toujours sur l'ETF aussi. Et en tout cas, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est une qualité de sélection des titres qui a fait ses preuves, en fait. Parce que le fonds, depuis la création, finalement, fait partie des tout meilleurs.
Il bat le marché depuis sur 5 ans,
oui,
il bat le marché.
Il parvient à faire mieux que le marché et à amortir ses frais, donc c'est plutôt bien.
C'est plutôt bien, ouais. Et justement, tu penses que la gestion passive, ça a un impact Tu disais tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de gestion passive, hein, il y a beaucoup de gérants passifs qui détenaient des titres et du coup, ça crée une espèce d'inertie ou est-ce que ça fausse le jeu, en fait, les ETF?
On est dans une phase particulière dans nos métiers qui est la recherche du moindre coût. Et c'est normal puisqu'on est devenu transparent pour les clients et donc on redonne aux clients la transparence des frais. Et ce n'est pas toujours évident d'aller justifier des frais sur les fonds qu'on peut acheter pour certains clients et qui nous disent « mais vous avez payé des frais chez telle ou telle société de gestion pour acheter ce fonds-là alors qu'on aurait fait un ETF, on aurait fait mieux ». Alors ça, c'est peut-être vrai parfois dans certaines phases. Il s'avère que les ETF font souvent mieux dans les marchés très haussiers et que généralement, ils sont toujours largement battus dans les marchés baissiers. Pour une raison très simple, c'est que la gestion active, elle a souvent des liquidités déjà dans les portefeuilles, entre 5 et 10% pour faire face à des souscriptions achats. Donc dans un marché très haussier, ça vous coûte en termes de performance. Vous avez cet impact des frais, tout aussi significatif. Mais après, dans les marchés baissiers, souvent, vous avez un peu plus d'agilité et donc des fonds qui font beaucoup mieux. À plusieurs reprises, moi, on a remis sur la table nos allocations en disant « Tiens, si je prenais cette allocation et si je la faisais un ETF, sur les deux dernières années, qu'est-ce que ça fait par rapport à mon allocation de fonds, entre guillemets, gérés, de gestion active ?» Et j'ai souvent été surpris du résultat. C'est que la vérité, c'est que les fonds qu'on achète pour nos clients, qu'ils soient gérés par nous, qu'ils soient gérés par d'autres, généralement, on va chercher plutôt des choses qui nous paraissent intéressantes. On est libre. Il n'y a pas d'intérêt croisé. Il n'y a pas de rétrocession, de choses comme ça. Donc, on choisit vraiment en fonction de nos convictions.
T'es du côté du client, toi?
Oui, côté client, bien évidemment. Ouais. Et donc, le vrai sujet, c'est de dire on ne s'est pas trop trompé, finalement, parce qu'ils n'ont peut-être pas fait de l'alpha dans des marchés très, très haussiers. Mais par contre, ils ont tellement protégé à la baisse. Et la vérité, c'est que nos clients ne comptent pas sur nous pour faire fortune. Ils comptent sur nous pour défendre leurs intérêts dans les phases difficiles.
Mais ça, c'est très intéressant. Tu penses justement qu'un particulier qui, lui, est en phase de construction de patrimoine, il doit avoir la même réflexion que ce que tu viens de décrire?
Alors, il y a plusieurs façons de voir ce truc-là. Celui qui ne veut pas réfléchir, qui ne veut pas se poser de questions, qui a une vision très long terme, qui est froid, il va pouvoir acheter, voilà, comme un robot, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il investit, il prend un ETF, il s'en moque et il investit son épargne au fil du temps et il ne regarde pas son portefeuille. C'est super, sauf que des clients comme ça, moi, j'en ai jamais vu. Les clients, ils vivent ça. Et donc, les performances, elles s'affichent. Et lorsqu'il y a des performances négatives, il y a de l'inquiétude. Et qu'est-ce qui fait que vous tenez les périodes négatives, C'est des convictions, c'est de la confiance, c'est de la perspective, c'est-à-dire la capacité d'avoir mis en perspective ce qu'on était en train de faire. Et seul, c'est difficile d'être froid par rapport à cette matière qui est l'argent et son épargne. Parce que c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'une épargne de précaution et qui a vocation à être plutôt là pour nous rassurer et pas pour nous inquiéter. Et donc, j'ai eu dans ma vie professionnelle une partie qui était celle d'être non pas gérant des portefeuilles, mais d'être dans une salle de marché où j'assistais en permanence à des clients qui se géraient eux-mêmes. J'avais créé un site de bourse en ligne, en fait, dans le passé, dans les années 80.
Tu étais start-upper aussi
Intra-start-upper, une société qui s'appelait Richelieu Finance, effectivement. Et donc, j'ai par contre assisté à des dizaines et des dizaines de clients que j'ai vus fonctionner, vivre sur les marchés, acheter, vendre des titres, investir leur épargne, etc. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup appris sur la matière. Et c'est pas simple, en fait, de gérer seul son épargne, seul face au marché. Et souvent, la matière est difficile. Et donc, on peut avoir des effets de panique, de stress, etc. Et donc, sur le papier, se mettre à acheter tous les trimestres des ETF pour les garder sur les 20 prochaines années, je pense que c'est une très bonne idée. La vérité, c'est qu'il y a peu de gens qui sont capables de faire ça. Les gens, ils ont besoin d'être accompagnés. Ils ont besoin d'être régulièrement consultés. Une des particularités qu'on a, c'est d'avoir des mandats discrétionnaires. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais j'ai des mandats qui ne sont pas profilés la plupart du temps. Tout simplement parce que ces mandats, ils vont passer plein d'étapes de vie pour les clients.
Tu veux préciser ce que ça veut dire ?
Ça veut dire que c'est des mandats qui peuvent être parfois investis à 80, 90% en actions, parfois investis à 0, 10, 15.
Ils sont très flexibles.
Très flexibles. Mais parce que on questionne souvent les clients sur est-ce que vous avez, on va faire des points, vous savez, pour savoir leur degré d'exposition au risque, qu'est-ce qu'ils sont prêts à supporter. La vérité, c'est qu'on est tous dans des phases de vie différentes et qu'à certains moments, bon, bah, très bien, on gagne bien notre vie, on a du succès dans nos affaires, on est plutôt entreprenant et plutôt capable d'assumer du risque. À d'autres moments, bah, on va être en train de divorcer, on va être un peu dépressif, etc. Et on n'a pas forcément envie de voir se cumuler un certain nombre de choses. Et c'est la même personne, en fait, dans des phases de vie et de psychologie qui se suivent et qui ne sont pas les mêmes. Et donc, le mandat discrétionnaire qu'on a, nous, c'est simplement de dire qu'on documente au fil du temps la relation avec le client et qu'on adapte notre gestion en fonction de nos anticipations de marché, d'un profil de risque qu'on a établi, évidemment, mais aussi qu'à certains moments, ben, on est capable de sortir des clous, ce qu'on ne pourrait pas faire si on avait, par exemple, un mandat dynamique. J'étais au téléphone cette semaine avec un client parce que j'étais hors ratio, j'étais trop prudent sur son portefeuille par rapport à son mandat. Et je lui ai dit, évidemment, vous avez un mandat dynamique. Si je suis sous-investi, je vais être hors mandat. Donc, il faut vite qu'on mette un mandat discrétionaire parce que si vous voulez rester sur ces niveaux d'investissement-là, ben, il faut que j'ai la liberté de pouvoir le faire. Et donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que on est vraiment dans une relation de confiance. Moi, le client me confie son épargne. Je suis là pour être prévisible. Je suis là pour lui dire quel chemin on va emprunter. Si à un moment donné, il m'appelle parce qu'il s'interroge sur un sentiment de marché, sur la nécessité de rester ou pas investi parce qu'on a engrangé une très très bonne performance et il veut la mettre de côté. Moi, je vais donner mon opinion, mais à la vérité, c'est son épargne à lui. Et donc, jamais je ne vais aller... si le client veut sortir, il sort. Ben voilà, il n'y a pas de sujet. S'il veut alléger, même si je suis à un moment donné convaincu du contraire, c'est son épargne, c'est lui qui a raison à la fin. Peu importe. La seule chose, c'est que ce soit clair, documenté, et que dans le temps, il ne puisse pas venir me dire mais je ne vous avais pas dit ça, si, ça. Tout ça, ça a été enregistré, sauvegardé. Donc ce mandat discrétionnaire, il permet ça. Il permet d'adapter le profil de risque à la vie du client sur longue période. Et ça tombe bien parce qu'on a l'intention de travailler longtemps pour nos clients.
Et quelqu'un qui est dynamique, c'est quoi la place des small caps dans son allocation ?
Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, si je prends l'exemple d'un PEA qui a vocation à être investi en actions européennes, on peut dire que la place raisonnable des small caps doit être autour de 20%.
Voilà. C'est quand même pas mal.
C'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Aujourd'hui, j'y suis pas. Pour être très transparent.
Parce que tu as attendu...
Attend, tout simplement. Parce que pour l'instant, on a arrêté d'avoir des sorties de capitaux, mais il n'y a toujours pas d'attractivité de cette classe d'actifs sur le marché. Donc, on le constate. Alors, ça vivote, hein, ça fait une performance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas encore dans un moteur de collecte sur cette classe d'actifs-là. Donc, on n'y est pas. Mais globalement, si je devais prendre un cycle complet, ce n'est pas déraisonnable d'avoir une vingtaine de pourcents sur une classe d'actifs comme des small caps dans l'intérieur d'un PEA, sachant que ce n'est pas évident enfin, sur un fonds ou ce n'est pas sur une thématique, il peut y en avoir plusieurs. Mais globalement, voilà, on est dans quelque chose qui me paraît raisonnable sur ces niveaux-là. On a aussi des PEA-PME, vous savez, en France. Et dans ce cadre-là, vous avez parfois des portefeuilles où il n'y a quasiment que ça, puisque ouais. pour être éligible, il faut être sur des small caps pour une très grande partie. Donc, en tout cas, sur l'outil d'allocation action européenne, si je devais prendre cette fois-ci quelque chose de plus large, imaginons que j'ai un profil équilibré, moitié-moitié, partie obligataire, partie action. Les actions européennes vont représenter, alors un peu surreprésenté quand on est européen, mais entre 20 et 25%. Donc,
de la poche action
de la, non, la de moitié poche. De la poche action, on va dire, okay. Au max. Ouais. Et donc, sur cette moitié de poche action, on peut considérer aussi qu'une dizaine de pourcents sur les small caps, c'est le niveau naturel, le moyenne période qu'on peut avoir.
Et les small caps américaines, c'est quelque chose que tu regardes, qui t'intéresse ?
Oui, alors c'est pas la peine là aussi d'aller très très loin. On a des façons de regarder ça, soit par des indices, soit par des fonds spécialisés. On n'a pas tout à fait la même taille de small cap aux États-Unis. Le vivier en fait d'entreprises est bien plus large et donc on arrive quand même à avoir plus de recherches sur les titres. Et donc, c'est plus facile à adresser parce que les brokers anglo-saxons couvrent mieux aussi cette classe d'actifs. Mmh. Donc, j'ai plus d'attrait pour une gestion purement active sur des valeurs de small caps américaines. Mais encore une fois, c'est une taille de capitalisation qui est bien supérieure à celle qu'on a citée là parce qu'il y a, pour le coup, la profondeur et la documentation qui est nécessaire pour pouvoir travailler. Et donc, je considère qu'on peut trouver des fonds qui les adressent correctement. Il s'avère, en revanche, que la concentration de performance, elle est vraie, et qu'on la trouve aux États-Unis comme en Europe, et qu'elles sont restées très, très loin des performances des grandes entreprises américaines, notamment des 6 ou 7 premières technologiques que nous connaissons tous.
Et c'est quoi les fonds, justement, que tu trouves intéressants sur la partie US ?
Alors, sur les US, aujourd'hui, dans nos allocations, on a des fonds de grands gérants très vanille. Je peux citer des fonds comme Fidelity dans les gammes de gestion. On a des fonds, même des fonds de Comgest d'ailleurs. J'ai un gérant que j'aime beaucoup qui gère un fonds de valeur de croissance américaine, alors qui n'est pas très important au sein de la gamme de Comgest, mais pour le coup, c'est lui qui gère l'ensemble de la classe d'actifs pour l'ensemble des fonds monde du groupe. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on a. Voilà. Puis on est assez fidèles, donc les gérants qu'on suit sur des classes d'actifs comme ça. Souvent, on est sur plusieurs années, ou même lui, c'est plus de 10 ans qu'on est client de son fonds. On a, par catégorie catégorie d'investissement, on a entre 5 ou 6 supports qui nous permettent de construire les allocations.
Okay.
Donc, je peux en citer quelques-uns, mais globalement, il n'y a rien de très concentré chez nous quand on va chercher des fonds à l'extérieur.
Ouais. Et sur CPIAM, si on revient sur votre gérant interne, tout à l'heure, on regardait l'allocation et on voyait que c'était quand même très exposé à la tech. D'où ça vient, ça ?
Alors, ça vient de plusieurs aspects. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, je vais le répéter, il y a 120 valeurs, donc c'est très large. La France représente, je crois, 15% où on parle de l'allocation.
C'est faible, je crois. Hein.
Ouais, c'est la part normale de la France dans le segment. Donc c'est
vous n'avez pas de biais français.
Il n'y a pas de biais France. Voilà. C'est juste pour dire qu'il n'y a pas de biais France. Il n'y a pas cette consanguinité qu'on peut avoir parfois dans les fonds de small cap français. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en termes sectoriels, on va se situer dans des entreprises qui sont en croissance. Et celles qui sont en croissance en Europe, sur ces tailles moyennes, c'est souvent des entreprises qui sont dans l'usine 2.0, c'est-à-dire on est dans le monde du digital, on est dans le monde de la technologie industrielle, et donc c'est la raison pour laquelle il y a cette représentation un peu supplémentaire par rapport à ce qu'on pourrait imaginer de ce qu'on appelle les valeurs technologiques. La vérité, c'est que ce ne sont pas les valeurs des GAFAM, on est bien
c'est du concret, c'est
de l'usine. De l'usine, simplement, ils amènent la digitalisation au grand groupe ou à l'industrie, ou ce sont des disrupteurs dans des métiers historiques, et donc c'est là où on trouve la capacité à faire de la croissance et la capacité à créer de la valeur. Donc c'est la raison pour laquelle vous avez ce poids des valeurs technologiques, mais il n'y a pas que ça, on a plein de PME qui sont vraiment à vocation mondiale. Et c'est ça qui est peut-être assez surprenant parfois, c'est que, alors on a eu le salon du Bourget qui se tient là, mais qui montre bien que les chaînes d'approvisionnement pour les grands groupes sont extraordinairement larges. Et donc, quand vous êtes...
C'est des milliers de boîtes qui travaillent pour faire un avion, en fait.
Et qui ont, en fait, un quasi-monopole sur un segment...
Très précis.
Très précis, c'est des niches. Et pour le coup, ce sont des boîtes totalement mondiales. Et donc ça, on en retrouve pas mal dans cette catégorie-là. Et c'est intéressant parce que c'est d'abord passionnant en tant qu'investisseur. Voilà, on peut les suivre, on peut les accompagner. C'est des boîtes qui ont besoin de ces capitaux pour fonctionner. C'est-à-dire que... Enfin, on a le sentiment de financer des choses qui sont concrètes, voilà.
Utiles.
Et puis qui sont vraiment des viviers de forte croissance. Donc c'est ce qui justifie en tout cas de s'intéresser à cette classe d'actifs-là. C'est qu'en vérité, on a des boîtes sur lesquelles on a une vraie vision, sur lesquelles on a des vrais marchés. On n'est pas, comment dire... Et puis on a des valorisations qui sont raisonnables. C'est-à-dire que ce sont des vraies valorisations de marchés transparents.
Donc là, aujourd'hui, sur les small caps, pour toi, c'est valorisé... On est en ligne avec les EBIT, avec...
Alors non, on est en dessous.
On est en dessous, on est sous-valorisé.
Ah oui, on est largement sous-valorisé. On peut considérer que la décote aujourd'hui de valorisation par rapport aux moyennes historiques des multiples de cette classe d'actifs-là, on est à peu près à 25%.
Ok. Et l'année dernière, on était du coup encore plus bas que ça.
Et c'est l'année dernière qu'on a créé cette décote, puisque l'année dernière, l'indice a perdu une trentaine de pourcents, un tiers de sa valeur à peu près. Donc c'est là où on a créé cette décote. Ce qui est assez frappant, c'est de voir d'ailleurs que les mêmes actifs aujourd'hui, selon la façon dont ils sont financiarisés, n'ont pas la même valeur. On a parlé tout à l'heure de l'immobilier. Si vous prenez un immeuble aujourd'hui de bureau à Paris, un exemple qui me vient comme ça à l'esprit, suivant qu'il est détenu par un particulier qui va le valoriser, suivant qu'il est détenu par une SCPI avec une valeur à tiers d'experts, suivant qu'il est détenu par une foncière cotée, la même chose, le même actif, va avoir trois prix totalement différents. Et ça, c'est assez surprenant. Sur les entreprises, qui est un autre univers, une autre classe active, l'achat d'actions d'entreprise, eh bien, selon que vous êtes dans un fonds d'investissement coté sur des marchés réglementés, ben, vous avez une valeur. Si vous êtes sur du monde du private equity non coté, vous avez une valeur qui est parfois bien, bien supérieure, alors que vous n'avez aucune transparence et que ce sont des actionnariats privés. Donc c'est très étonnant de voir cette fragmentation des valeurs. Ce sont les mêmes actifs, simplement le mode de détention, le mode d'achat de cet actif ou le mode de cotation va en changer le prix, même si ce sont les mêmes valeurs.
Donc en fait, aujourd'hui, le small cap coté est pénalisé par le fait d'être librement échangeable.
Au point que c'est une difficulté pour les fonds de private equity de trouver sur le marché coté, sur la cotation, une porte de sortie pour les fonds.
Bien sûr.
On est dans un fonds de private equity aujourd'hui. Les valeurs sont faites entre fonds de private equity. Et la vérité, c'est qu'il y a très peu de dossiers qui sont passés à la cote, ce qui était l'issue naturelle et normale lorsque vous avez votre entreprise qui se développe. Tout simplement parce que les ratios de valorisation proposés par le marché...
Il y a un trop gros différentiel.
...sont inférieurs à ceux qui sont pratiqués dans les fonds de private equity. Et donc, cette classe de valeurs moyennes aujourd'hui... Bah, ça devient plutôt une cible qu'autre chose, parce que ça devient relutif pour une entreprise qui n'est pas cotée d'aller racheter un actif coté, parce que tout simplement, elle va le valoriser mieux en étant hors des marchés.
Mais tu disais, du coup, il y a 25% de décote par rapport aux multiples, mais pourtant, tu n'es pas encore prêt à revenir dessus à pleine balle, parce que tu penses que c'est trop tôt. T'attends quoi? T'attends une plus grosse décote?
Non, je commence.
Tu commences doucement.
On construit les positions, encore une fois. Je crois que si je prends l'exemple d'un PEA, clairement chez moi, je crois qu'on est à 10%. Donc c'est un début de ligne sur cette catégorie-là.
Et comment tu montes la position? C'est tous les mois, vous fixez un objectif de montant? C'est comment ça se passe? Vous avez un horizon de temps aussi pour atteindre le...
D'abord non, la réponse est non. Non, ce choix, on l'a fait parce qu'on a considéré qu'une partie de la performance des marchés larges était déjà bien enregistrée. Donc c'était une façon d'aller mettre, entre guillemets, de séparer un petit peu, de prendre un peu de profit là-dessus pour aller se réinvestir sur une catégorie qui n'avait pas bougé. Donc c'est une façon de prendre le train en retard sur les small caps. Est-ce qu'il y a une urgence à finir? Non. Aujourd'hui, le marché... est un marché qui est plutôt en stagnation, en Europe en tout cas. On plafonne un peu, on joue à se faire peur entre chaque publication trimestrielle. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, en tout cas depuis 2022, à chaque fois qu'on a été en connexion avec les publications de résultats d'entreprise, c'est là où on a fait les points hauts de marché, tout simplement parce que les catastrophes ne se sont pas avérées sur les profits des entreprises. Est-ce que l'été peut être un peu plus agité? La réponse est c'est possible. On a des communications des banques centrales qui sont pas toujours très rassurantes sur la suite, parce qu'il y aura encore une hausse de taux. Vraisemblablement aux États-Unis, il a été décidé que la pause serait courte. En Europe, c'est pas fini. On a des ralentissements. On a une récession technique en Europe qui est très faible, mais qui est quand même matérialisée. Donc, il s'avère qu'à ce stade, en tout cas, les révisions des bénéfices d'entreprise sont pas là. Et donc, pour l'instant, à chaque fois qu'on se connecte sur les entreprises, l'inflation et le contexte économique et géopolitique a été plutôt l'occasion de développer des marges et d'atteindre des profits plutôt historiques et records que de voir des grandes inquiétudes. Et donc le marché les valorise généralement à chaque publication. Il n'y a pas de grosses inquiétudes sur le deuxième trimestre. En revanche, c'est vrai qu'on peut avoir un peu de volatilité dans l'été. C'est souvent quelque chose auquel on est habitué. Donc on n'est pas pressé d'aller se réexposer massivement. En revanche, dans le contexte, et sur une vision de 3 ans, qui est une vision normale quand on investit minimum, là, pour le coup, ça devient intéressant. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles, quand tu m'as posé la question sur les small caps, je t'ai répondu oui, c'est pas mal d'aller là-dessus maintenant. C'est parce que c'est un peu comme pour l'immobilier. Il ne faut pas attendre que la hausse des taux soit terminée pour s'y intéresser, parce qu'à un moment donné, ça va redécoller, ça sera très rapide. Et généralement, les small caps, c'est pareil. Il y a une première phase de remise à niveau des prix qui est assez rapide et qui est assez violente.
Est-ce que sur donc tu disais sur 3 ans, c'est un horizon pour construire une position. Là, sur le court terme, est-ce que tu te vois aussi dans un scénario où tu quitterais le marché des small caps ou même le marché actions en général parce que tu sens que en fait le contexte est trop défavorable?
Alors la réponse est non.
Vous êtes toujours investi dans les marchés, mais vous allouez en fait.
Oui, alors en fait, si je donnais, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de discrétionnaires, comme je disais, mais si je donnais des grandes lignes, ce qui est intéressant, c'est de s'assurer de ne pas avoir de déformation de poche trop importante. Si on regarde les grands arbitrages qu'on a pu faire sur les derniers mois ou les derniers trimestres, globalement, on n'a pas été trop inquiet des baisses de marché actions l'année dernière parce que on avait en permanence des niveaux de valorisation relative qui étaient tout à fait conformes, tout simplement parce que les profits étaient au rendez-vous, hein. C'est juste ça. On a eu de la rémunération en tant qu'actionnaire de manière considérable, les dividendes versés ont été records, et on n'en parle pas très souvent, mais les rachats d'actions ont été aussi records.
Ça aide.
Donc ça aide beaucoup à la liquidité sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours valable au premier trimestre 2023 et au deuxième trimestre. Je pense en tout cas que les versements de dividendes qu'il y a eu ont été de nature aujourd'hui à amener de la liquidité au marché aussi. Mais il n'y a pas de choses majeures qui nous feraient sortir complètement des marchés. Simplement, c'est important de ne pas laisser les poches se déformer trop fort. Typiquement, on avait des grandes valeurs européennes de croissance. Elles font un très beau parcours. On ne va pas laisser les allocations se déformer trop fort parce qu'il y a des grosses performances sur certaines classes d'actifs, et donc on a tendance à prendre quelques profits dessus pour les réallouer. De même, on a eu un parcours récent sur les États-Unis, sur le Nasdaq, un très beau parcours aussi quand on a bien travaillé les devises comme le dollar depuis quelques temps. Clairement, il y a vocation à bouger ces allocations, tout simplement parce que si on ne fait rien, elles vont venir déformer nos poches. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait très régulièrement.
C'est quoi très régulièrement? C'est quoi les horizons de temps dont on parle?
Au moins tous les mois.
Tous les mois?
Oui, on regarde les déformations vraiment très régulièrement. Et ça, c'est quelque chose qui doit être fait. C'est-à-dire que si vous laissez embarquer... voilà. Et ça nous oblige aussi parfois à venir lisser des performances. Donc encore une fois, notre sujet, c'est la prévisibilité, c'est de ne pas laisser s'embarquer. Imaginez que dans des phases d'accélération très forte des marchés, comme on a eu sur les 6 derniers mois, vous ne changez rien, vous avez 20% d'exposition aux actions supplémentaires par rapport à ce que vous pensiez mettre dans votre mandat. Donc il faut vraiment continuer à le regarder régulièrement. On a eu des performances récentes, par exemple, sur le Japon. J'avais une allocation au Japon qui était très significative. Vendre 30% de l'allocation, c'était raisonnable. C'était simplement pour la remettre à son point de départ en début d'année. Donc tout ça est assez rationnel. Simplement, c'est juste pour dire que quand on construit des allocations, ce n'est pas toujours évident parce qu'on justifie aux clients parfois difficilement, parce que lui, il va regarder le CAC 40. Et donc, s'il voit le CAC qui fait plus 14 depuis le début de l'année, il va me dire, mais comment ça se fait que je ne sois pas à plus 14? Ben, je vais lui dire, mais parce que vous n'avez pas 100% de CAC 40. Le CAC 40 représente à peine 10% de votre allocation aujourd'hui. Donc, ce n'est pas forcément ça qu'il faut regarder. Donc, c'est souvent un travail d'explication. Mais à l'inverse, quand on a des années difficiles, ils sont bien contents qu'on arrive à tirer de la performance et pas forcément sur l'indice qu'ils regardent tous les jours sur leur écran de télévision.
Et comment ils ont réagi pendant le Covid? Parce que là, ils ont vu leur patrimoine qui perdait quand même. Enfin, il y en a qui ont dû perdre des montants astronomiques sur le papier. Donc c'est...
Alors, c'est très important de dire ça. C'est que c'est là où vous avez deux choses. Un, l'expérience. Et deux, vous avez, vis-à-vis de vos clients, conservé le niveau de risque. Vous n'êtes pas sorti des bornes de risque que vous étiez engagé à prendre pour lui. Et ça, c'est la clé. Et vous n'avez pas investi de l'argent dont le client aurait dû ou aurait pu avoir besoin dans cette période-là.
C'est un crash test, en fait.
C'est un crash test. Je crois que j'ai eu, sur l'ensemble des clients de mon Ségur, un seul rachat dans cette phase-là, significatif. Le reste, on a réussi à les convaincre de rester. Et c'était sur des niveaux de marché qui n'étaient pas déraisonnables non plus, parce que ce n'était pas des clients qui étaient très exposés. Mais on a toujours le client qui vous explique qu'il est prêt à prendre un certain risque, mais qui, derrière, n'est pas prêt à le subir, parce que, comme je vous le disais, à un moment de vie particulier, il ne va pas être en capacité de le maintenir, parce qu'il a peut-être une acquisition à faire, un besoin de financement de quelque chose. Et ça, vous l'avez difficilement en avance. Et donc, on peut avoir ça. Si je devais résumer les 30 ans de métier qu'on me parlait, dans les points forts de ma carrière, il y aura le fait d'avoir été très transparent avec les clients, le fait de les avoir empêchés de faire certaines bêtises, notamment tout ce qui était à effet de levier, tout ce qui était des fonds trop complexes pour qu'on puisse comprendre l'origine de la performance, on va dire ça pour être poli. Et puis, le fait de les avoir plutôt convaincus d'investir quand ils avaient envie de partir et de ne pas investir quand ils voulaient tous arriver. Voilà. Donc, c'est plutôt... Et après, le stock picking et la capacité à faire de la surperformance, qu'on appelle de l'alpha sur la sélection de valeur, je dois dire que la fin de l'histoire, ce sera peut-être un peu modeste par rapport à ces questions-là.
Et tu disais quand même que tu fais du titre vif sur du small cap. C'est quoi les valeurs qui t'intéressent en ce moment?
On a quelques valeurs en small cap pour les clients. Alors, ce qu'on aime bien, c'est les valeurs qui sont porteuses de sens, aussi d'un point de vue ESG.
Donc l'ESG, c'est le respect de l'environnement, protection de l'environnement.
Voilà. Alors nous, on aime bien, alors je vais citer ça, on aime bien tout ce qui est... on déteste le plastique. Et nous-mêmes, chez nous,
aussi.
Ça fait longtemps qu'on a banni tous ces trucs-là. Et le plastique, bah, dès qu'on va à la mer, on voit que c'est catastrophique. Et voilà, et donc nous, on déteste ça. Et donc on s'est beaucoup intéressé aux substituts de plastique et aux sociétés qui fabriquent des substituts de plastique qui pourront remplacer à terme, pour un certain nombre d'usages, les sacs en plastique de supermarché et d'autres PET qu'on utilise et qui polluent tous nos océans. Et donc, il y a des boîtes qu'on regarde comme ça régulièrement, qu'on a en portefeuille. Alors, je peux en citer une, Corbion.
Boîte française ?
C'est une boîte française qui a une joint venture avec Total Energy.
Intéressant.
Pour développer ça et qui, par ailleurs, fait des enzymes. Qu'on utilise pour l'alimentaire notamment. Voilà. Donc ça fait partie des PME qu'on regarde. On regarde des choses qui fabriquent des choses liées à l'alimentaire. On regarde des boîtes qui font du renouvelable. On est actionnaire par exemple de boîtes comme Neoen, dans les fermes solaires notamment. On a pas mal de dossiers comme ça, small cap. C'est plus pour pimenter des portefeuilles que vraiment des contributions fortes aux allocations. C'est pas là où on va. Voilà. En revanche, on a des clients qui ont envie quand même d'avoir de la matière. Et donc, quand on la défend, c'est bien, mais ils aiment bien avoir de la transparisation pour comprendre réellement ce sur quoi ils sont investis. Et donc, dans ces cas-là, d'avoir quelques sociétés comme ça. Voilà. Après, je ne vais pas vous dire de bêtises. Le plus gros de nos encours sont sur des très larges valeurs mondialement connues, sur lesquelles nos clients sont heureux d'être actionnaires depuis très longtemps. Et c'est pas mal parfois de ne pas être très imaginatif quand on fait des titres vifs. On est très bien avec du LVMH, avec du Air Liquide et du L'Oréal depuis 10 ans et du Microsoft ou de l'Amazon aux États-Unis. Ou plus récemment, on a rentré du Adobe, ça s'est très bien passé. Mais enfin, vous voyez, des grosses valeurs comme ça, pour constituer des fonds de portefeuille, c'est très très bien. Et les small caps, encore une fois, c'est pour quelques clients qui ont envie d'avoir, en fait, soit sur un PEA, PME, etc., mais des aventures entrepreneuriales, en vérité.
Voilà. C'est pour vibrer un petit peu, en fait.
Oui, et c'est toujours... en fait, notre métier, si je devais le résumer, on collecte de l'épargne de clients privés qui sont non professionnels et on est connecté au marché. Et c'est de rendre une courroie de transmission la plus courte possible entre l'investisseur et son épargne et les marchés financiers sur lesquels on va pouvoir adresser cette épargne de manière intelligente. Après, parfois on trouve ce dont on a besoin, parfois on le fabrique, parfois on fait du stock picking, on va faire des titres vifs, parfois on le fait fabriquer. Très récemment, dans les autres classes d'actifs, on a fait fabriquer un fonds obligataire à échéance pour nos clients. On a signé un fonds. Donc
tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, à échéance ?
Ça veut dire qu'on a allé voir un gérant obligataire. On lui a dit, voilà, on voudrait investir nos clients pour 5 ans sur un portefeuille d'obligations européennes en euros de signature moyenne, voire dégradée, c'est-à-dire de haut rendement.
Signature, c'est la qualité de signature, des sociétés qui vont émettre, enfin, qui vont rechercher de la dette.
En fait. Exactement. Et donc aujourd'hui, il s'avère que les taux sur cette classe d'actifs-là à 5 ans sont très élevés. On est entre 7 et 8%. Quand on avait ce projet-là, il était autour de 6,5%. On a maturé ce projet, on a trouvé le fournisseur pour nous fabriquer ce fonds-là parce qu'on ne voulait pas le gérer nous en interne. On a négocié le prix de gros pour nos clients et on a fait rentrer nos clients sur une part qu'on appelle super institutionnelle qui coûte aujourd'hui moins cher qu'un ETF, puisque je crois que l'ETF sur le high yield, il est à 0,4 aussi, un peu comme pour les small caps. Je crois que la part instite chez nous qu'on a fait souscrire à nos clients était à 0,3. Enfin, c'est juste pour dire que c'est d'un point de vue d'un investisseur très intéressant et surtout ce qui est intéressant.
Mais
c'est
ils ont accès parce qu'ils ont avec vous, enfin, vous avez négocié le prix de gros. Bien et sûr, vous amenez de l'encours important.
Exactement. Et plutôt que de le faire nous, on a trouvé plus intéressant de le faire faire à des gens qui étaient vraiment spécialisés sur cette classe d'actifs-là. On a gardé un droit de veto sur la gestion, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, on est capable de dire non. Et ça nous a permis de placer en tout cas une partie de l'épargne de nos clients sur quelque chose qui a un peu de visibilité, sur des rendements visibles. Et donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on capte des niveaux aujourd'hui de taux d'intérêt de manière assez opportune sur ces niveaux-là. Le portefeuille a été investi il y a maintenant 2 ou 3 semaines. Je crois que le rendement moyen actuariel, en ayant enlevé les choses les plus dangereuses, qui nous paraissaient nous en tout cas les plus dangereuses, on est quand même autour de 8% brut. C'est beaucoup. C'est beaucoup.
Et ça, c'est quelque chose que toi, tu avais vu venir il y a quelques années, que les taux allaient remonter aussi violemment ?
On ne peut pas dire ça. La vérité, c'est qu'il y a 2 ans, on n'aurait pas imaginé que la Banque centrale remonterait les taux de manière aussi considérable. Puisque je crois même que la dernière fois qu'ils ont remonté les taux, on n'était pas allé aussi haut en taux directeur. Non, ce qui était clair, c'est qu'on n'a pas acheté de taux négatif. C'est-à-dire que payer pour avoir de l'argent conservé dans des emprunts d'État, on n'a jamais voulu faire ça. Donc on a eu des obligations corporates un peu dans les portefeuilles. Mais la raison pour laquelle mon fonds patrimoine, qui a 70% d'obligations, ne fait pas moins 10 l'année dernière, il fait moins 4,5, c'est tout simplement parce qu'on était très court et qu'on n'avait pas de sensibilité obligataire.
Quand tu dis très court, c'est-à-dire que vous aviez des obligations
monétaires, quasi monétaires.
Donc c'est quoi les échéances ?
Des échéances, c'est la maturité 1 an.
Okay.
Donc on a moins subi,
tu subis moins la hausse des taux.
La hausse des taux.
Parce que ça, c'est intéressant, tu peux peut-être expliquer pourquoi il y a une sensibilité si forte entre la duration d'un portefeuille, enfin les échéances d'un portefeuille obligataire et la remontée des taux. Pourquoi on peut se faire piéger en fait ?
C'est assez simple. L'actif le plus sûr en Europe était la dette allemande. La dette allemande à 10 ans, si vous la déteniez en 2022, bah, elle a démarré l'année à taux négatif, on devait être à moins 0,30 et on termine à 2,5. Sur 10 ans, ça veut dire que vous avez perdu quasiment 25% de la valeur de cette obligation sur une année, alors que c'était l'actif réputé le plus sûr. Si par en revanche, vous avez... une obligation qui vous ramène du 1% air liquide, c'était à peu près les taux qu'on avait en début 2022. En termine 2022, elle vous ramène peut-être du 2. Vous avez perdu facialement 1% sur votre obligation, donc c'est pas dramatique. Quand vous êtes à court terme, vous n'avez pas de sensibilité à une remontée des taux, tout simplement parce que le portefeuille il est replacé très régulièrement au taux d'intérêt du marché du moment. Et donc vous avez cette remontée des taux qui est indolore parce que bah, finalement le papier qui arrive à son échéance, il est réinvesti sur le nouveau taux d'intérêt et comme le portefeuille va se renouveler en l'espace de 6 mois, bah, vous n'avez pas de duration dans le portefeuille. Ce qui est très compliqué, c'est ce qu'on a vécu sur les entreprises et donc vous avez des entreprises qui s'endettaient à des taux très faibles et qui se retrouvent aujourd'hui à renégocier de la dette à des taux beaucoup plus élevés. Donc ça, c'est un impact significatif. Et lorsque vous étiez porteur obligataire d'obligations d'entreprise sur des fonds traditionnels obligataires, globalement, on avait un rendement qui était autour de 2. On est aujourd'hui sur un rendement global autour de 5 sur les fonds obligataires européens à échéance 5 ans, enfin autour de 5 ans de maturité, c'est-à-dire les fonds normaux obligataires. L'année dernière, vous faites moins 13, moins 14 sur ces fonds-là. Et c'est imparable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité d'échapper à ça, parce que c'est uniquement le marché obligataire qui conduit à ce que vous fassiez cette performance-là. Le seul moyen de pas la subir, c'est de ne pas être dedans, tout simplement.
Et justement, on a pas mal parlé de Montségur, de ce que fait CEPIAM. Toi, ça fait 30 ans aussi que tu es sur les marchés. Comment, toi, tu gères ton patrimoine ?
C'est une très bonne question. D'abord, mon patrimoine, il est déjà très fortement corrélé au marché financier. L'essentiel de mon patrimoine, c'est les actions de ma société que je détiens et les fonds propres, puisque lorsqu'on a une société de gestion, on doit capitaliser des fonds propres importants, tout simplement parce que la réglementation vous oblige à garder par-devers vous du capital pour faire face à des aléas de marché. Donc la première chose, c'est que moi, je suis déjà surexposé au marché financier. Ensuite, j'ai plusieurs enveloppes d'épargne. J'ai une enveloppe d'épargne retraite qui permet effectivement de mettre ce qu'on disait tout à l'heure dans une échéance lointaine de l'épargne à terme. Alors, ce n'est pas très significatif, mais ça permet en tout cas de défiscaliser un peu d'impôt sur le revenu et puis de placer à long terme. On a de l'épargne entreprise. Chez Montségur Finance, c'est un vecteur important. Tous les salariés bénéficient d'un plan d'épargne entreprise et d'un plan d'intéressement qui est pas loin, je crois, des plafonds possibles, en tout cas, pour que tout le monde soit intéressé à la réussite de l'entreprise et du projet entrepreneurial. Donc ça fait partie des éléments importants de mon épargne, parce que ça fait bien longtemps que je travaille et que j'ai accumulé sur ces plans d'épargne un peu d'argent. Ensuite, j'ai un contrat d'assurance vie. Un contrat d'assurance vie qu'on appelle dédié, donc qui permet d'avoir une poste de gestion personnalisée. Alors, on parlait de mandat discrétionnaire, mais c'est des contrats d'assurance vie dans lesquels je peux acheter des titres vifs, des actions, des obligations, des fonds, des ETF, avec une latitude totalement ouverte. Donc ça, c'est une partie significative.
Que tu gères toi ou que tu délègues ?
Que je gère en fonds.
Okay.
C'est-à-dire que c'est essentiellement sur les fonds maison que je suis investi ou dans les allocations comme mes clients, en fait, voilà, tout simplement. Mon patrimoine, il y a un peu d'immobilier personnel, une résidence principale et une maison secondaire. Donc assez traditionnel pour quelqu'un qui a 50 ans et une famille nombreuse à loger.
Et les actifs alternatifs, la crypto, tout ce qui est objet de collection, ça t'intéresse ?
Alors, en fait, c'est intéressant cette remarque, ça est très personnel. La crypto, je suis un geek, donc j'ai regardé ça très tôt. J'ai acheté du Bitcoin, figure-toi, je crois que j'ai dû payer $500.
C'était il y a longtemps.
J'en avais acheté 10 en me disant, tiens, ça m'intéresse. Et en fait, comme je suis trop vieux pour faire ça, je me suis retrouvé à l'époque avec du Bitcoin sur un disque dur parce qu'il n'y avait pas tout l'écosystème pour le détenir et le conserver en sécurité. Et à l'époque, nous, on craquait des disques durs tous les mois. J'avais dans la boîte des ordinateurs qui flanchaient à cause de défaillances de disques. Et j'ai dit, oh là là, moi, je n'ai pas gardé de l'épargne trop dure à gagner et à constituer sur un support que je peux perdre du jour au lendemain. Et donc, j'avais revendu ça avec un petit gain. Donc, ma foi, ce n'était pas grave. Mais tout simplement parce que je n'avais pas vu à l'époque la sécurisation de cette épargne-là qu'on commence à trouver maintenant, ça devient mature et donc on arrive à détenir du Bitcoin ou des crypto-actifs entre guillemets sans avoir à trop s'inquiéter de la façon dont on va pouvoir le conserver et le déposer. Or pour moi c'est un élément clé. Je suis assez vieux pour avoir vécu des faillites de banque, puisqu'on en a eu il n'y a pas très longtemps.
Exactement.
Mais moi, j'ai eu des faillites de banque où il y a eu des pertes d'actifs pour les clients.
En France ?
Ça a existé. Ah oui, la banque Palastern, j'étais encore au lycée, mais j'ai vu ça, je l'ai entendu. Donc détenir des choses qu'on peut perdre, c'est quelque chose qui me
ça,
plaît
ça te parlait le...
Donc je suis sorti des bitcoins par ce fait-là. Donc je n'ai pas de crypto-actifs au moment où on parle. Il y avait une autre question, c'était sur la collection. C'est ça
sur c'est sur la passion, tu vois. Est-ce que c'est des investissements un peu coup de cœur ?
Le Bitcoin, non.
Non, il y en a d'autres.
J'ai
peut-être
pas trouvé que c'était un investissement coup de cœur, en tout cas pas pour ce qui m'appartient.
Plutôt par curiosité intellectuelle sur le Bitcoin.
Oui, c'était plutôt de la curiosité intellectuelle. Je reconnais qu'on a eu des gérants qui ont fait des parcours sur les Bitcoins assez incroyables.
Les clients, ils en demandent
Non.
Non.
D'abord parce que nous, on n'est pas identifié là-dessus. C'est pas un marché sur lequel on est autorisé à opérer,
ouais.
Puisque tout simplement notre agrément d'autorité des marchés financiers ne nous permet pas, à l'intérieur des mandats de gestion, de sortir d'un certain nombre d'actifs traditionnels et réglementés, cotés sur des marchés réglementés. Donc on peut pas, on n'est pas prestataire d'investissement dans les services numériques. Donc y a pas de, on n'est pas dans la capacité de mettre ça dans les mandats. Donc y a pas de, pour nous, il n'y a pas eu de sujet. Et puis, on a des clients qui aiment bien aussi la matière et qui ont eu envie de le faire. Et ils n'ont pas besoin de nous pour le faire. C'est-à-dire, ouais, que, clairement, c'est accessible aujourd'hui. On a des clients qui peuvent très bien avoir des comptes ouverts chez des brokers en ligne et continuer à gérer telle ou telle partie de leur épargne, etc. Mais encore une fois, c'est important, lorsque les patrimoines sont significatifs, souvent, vous avez envie qu'il y ait une partie qui est déléguée de cette épargne. Vous avez envie de garder un peu pour... Mais globalement, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de la suivre, de s'y consacrer, s'intéresser, se passionner pour ça. Moi, je fais ce métier depuis longtemps, c'est sympa de me le rappeler, mais ça m'occupe du matin au soir. Et depuis toutes ces années, je ne cesse d'apprendre. Et je me dis que quelqu'un qui n'est pas prêt à investir ce temps-là, cette passion-là, il vaut mieux qu'il délègue une partie, en tout cas, parce que pour l'essentiel de ses actifs, c'est bien de se remettre à une personne un peu froide et le plus professionnel possible.
Et est-ce que tu as un dernier mot pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent ? Tu l'as dit, 30 ans, tu les fais pas, enfin, t'as pas du tout, on ne dirait pas que tu as fait 30 ans de carrière. T'as vu plein de choses, t'as vu des crises, t'as vu des marchés euphoriques, t'as vu plein de classes d'actifs émergés, t'as dit que t'avais vu des faillites bancaires, des gens qui ont perdu des dépôts. Est-ce qu'il y a des choses que tu veux encore partager et qui pourraient aider un investisseur particulier qui veut se constituer un patrimoine ?
Oui, investissez dans ce que vous comprenez, dans ce que vous connaissez. Je le disais, dans les choses qui ont marqué ces 30 années, on a évité beaucoup d'erreurs à nos clients. Et dès lors que vous avez des fonds dont vous ne comprenez pas l'origine de la performance ou qui sortent vraiment des sentiers battus, dès lors que vous avez des effets de levier, voilà, il n'y a pas de rémunération sans risque et donc il faut bien être capable de mesurer le risque. Et je crois que l'essentiel est là. Prenez des risques raisonnables et le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est de ne pas en perdre déjà. Et donc, avoir une très large répartition de ses actifs, confier ça à des professionnels visibles et sur longue période, ça me paraît important. La tarification est accessible, c'est-à-dire que, bon, alors après, il y a toujours matière à discuter sur la tarification parce que, effectivement, moi je travaille parfois pour des assureurs. On fait de la location d'actifs pour des contrats d'assurance vie, ce qui nous permet de toucher des clients qui mettent 1 000 euros sur des contrats d'assurance vie sur Internet. Donc on fait ce travail aussi dans le digital. Il n'empêche que ce n'est pas forcément moins cher que ce que vous avez trouvé chez un gérant d'actifs à qui vous avez confié votre épargne. Tout simplement parce que le prix d'Internet aujourd'hui est un prix qui reste retail. Lorsque vous avez un montant de patrimoine significatif, il faut peut-être sortir du prix retail pour aller voir des gérants de fortune, tout simplement parce qu'ils vous permettent d'accéder à une gestion dont le prix est plus adapté au stock que vous avez à confier en gestion.
Top. Merci pour ton temps, François. C'était passionnant et je te dis à très bientôt.
Avec plaisir.
Salut. Merci à tous.